Trop longtemps, vous avez été dans l'ombre. Trop longtemps, vous avez été ignoré. Trop longtemps, vous avez été sans voix. Aujourd'hui, en grande première, le Mouvement citoyen Handicap Québec met à l'honneur les personnes en situation de handicap et présente le balado des 10%. Voici votre animateur, Richard Guilmette.
Je suis hyper content aujourd'hui parce que je reçois une femme extrêmement sensible, extrêmement douce, pleine de vie, une femme qui a beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, c'est de ça que je vais vouloir parler avec eux. C'est une invitée particulière parce que c'est pas rien qu'une invitée quelconque là, que je ne connais pas. Je la connais depuis environ 10 ans. C'est une amie. Une amie qui était là pour moi au moment où j'en avais le plus besoin. Nina, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Richard. Je suis tellement contente de te voir en forme. Il a fallu qu'on se rencontre toutes les deux, hospitalisées, c'est le même étage.
Oui, parce qu'il faut le dire qu'on était amis, mais on ne s'était jamais vus, pour vrai. La première fois qu'on s'est vus, c'est que tu étais hospitalisée, puis tu voyais les pauses que Karine faisait, puis là, tu es venu cogner à ma chambre. Mais t'étais sur le même étage.
C'était juste deux portes en arrière de toi, j'étais pas loin, là.
Qu'est-ce que tu faisais là?
J'avais un problème d'infection urinaire qui avait attaqué un de mes reins, donc on voulait être sûr, vu que j'en ai un seul. Maintenant, depuis 2016, moi, ce qui est une infection urinaire, si ça t'offre plus que 4 jours, il faut que j'aille à l'hôpital, parce que sinon, ça va me faire une pyélonéphrite, puis ça peut mettre... mon rein puis ma vie aussi en danger.
Hey, parle-moi-en
peu. Quand j'ai vu le... oui, vas-y.
Non, vas-y, vas-y.
Quand j'ai vu le poste à Karine, oui. Puis j'ai vu à quel étage que j'ai dit, je me suis criée dans ma chambre, ben voyons donc, qu'est-ce? Richard, il est juste à deux pas de ma chambre. Je peux-tu aller le voir? Je peux-tu sortir? Puis je me disais, ouais, mais là... T'sais, avec tout ce qu'il y a eu, je vais aller lui demander, voir s'il veut de la visite. Parce que, écoute, t'es sorti du bois. Moi, là, Richard, j'ai pensé à toi tout l'été, tout l'automne. Puis, je suis pas croyante, mais je t'avais dans mes prières. Voilà.
Ben, t'es fine. Puis, je pense que, ben, tu le sais, moi, je crois en l'énergie commune, l'énergie de tout le monde. Puis, ça a l'air que ça a marché, en tout cas, un peu. Nina, tu le sais, en introduction, j'ai pas dit ton nom de famille. Ben, je l'oublie tout le temps, ton nom de famille, parce que tu le dis toi-même, là, mon nom de famille, ce n'est pas quelque chose que je nomme moi-même. C'est nulle part ou à peu près pas. Mais j'aimerais qu'on... Dis-nous, là, Nina, quoi? Ton nom de famille, c'est quoi?
Mon nom, c'est Nina Canty-Christin.
Bon, là, le monde dit, ouais, mais là, pourquoi Nina ne veut pas vraiment parler de son nom de famille? Mais on va y revenir, parce que Nina, tu sais, le concept du balado des 10%, c'est d'aller voir des personnes en situation de handicap qui ont une vie. Parce que le monde pense que nous autres, on n'en a pas de vie. Puis là,
ben, non, certainement pas.
Comme toi, tu n'as pas de vie du tout. Mais attendez de voir le métier qu'elle fait tantôt. Puis vous allez voir. Moi, c'est le métier que tu le fais, tu le sais, c'est un rêve pour moi. Hein. J'aurais voulu faire ça.
Je sais.
Quand tu me dis que tu allais faire ça, je t'ai trouvé tellement chanceuse. Puis... là, c'est officiel. Maintenant, tu es à l'emploi. Tu ne pourras pas nous dire tout de suite. Ben, écoute, on y va tout de suite, Caroline. Tu ne peux pas nous dire pour quel corps de police.
Non, je ne peux pas vous le dire pour des raisons que je ne peux pas. Je travaille, je suis préposée aux télécommunications. Donc, c'est répartiteur 9-1, si on veut. Donc, quand les gens ont des urgences, ben c'est nous qui appellent. Pour nous dire, écoutez, je vis une violence conjugale, mon mari est violent, ma femme est violente, ou papa puis maman, ils se sont chicanés, aidez-nous, envoyez-nous la police, ou encore, les trucs les plus niaiseux puis banals, mon voisin, il a mis de la neige sur mon terrain. Bon, hein? Donc, ça peut être autant important que des gens que c'est pas important non plus, on va se dire.
Mais il faut dire que tu es au 911, au 911, pas pour un petit corps de police. On peut pas le nommer, mais c'est pour un très grand corps de police, ça.
Oui, je suis pas mal fière.
Tu travailles pas d'un petit canton, toi, là. Mais on va y revenir. Tu vas nous parler, tu vas nous parler tantôt de tes expériences. Puis tu sais que mon technicien qui est avec toi, Lawrence, aujourd'hui, lui, il s'occupe de la sécurité. Il y a une grosse compagnie de sécurité, ce gars-là. Puis, je fais une entrevue à un moment donné. Mais juste pour te dire qu'il connaît un peu ça, parce que là, il protégeait le premier ministre cette semaine à la COP 15. Oh! Oui, 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 vraiment.
Oh, COP 15, oui. Mon Dieu, que la moitié de ce que j'entends dire au travail, la moitié de nos agents étaient là-bas.
Toi donc, aussi, la moitié.
Nos policiers, là.
Bon, vous voyez. Ben écoute, bon, là, tu sais le concept du balado des 10 %. Nous autres, on va aller parler de toi, de ton enfance à aujourd'hui. On fait ça à peu près en une heure et quart. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout toucher, mais on va essayer de montrer aux gens, aux deux pattes, là, que oui, on peut avoir une vie normale. Fait que, dis-moi,
effectivement.
Nina, j'aimerais qu'on parle de ton enfance, qui n'a pas été une enfance facile, OK? Fait que je te ramène, mettons, à la petite école, OK? Mettons, 7-8 ans. Fait que j'aimerais que tu me parles de ça. Comment ça se passait chez toi, à la maison?
Ben moi, pour donner une idée aux gens de ce qui est mon handicap, moi, je suis une personne atteinte de la paralysie cérébrale, donc je suis née prématurée. Il y en a qui disent à 24 semaines, d'autres 26, donc je vais être plus juste pour être plus safe. Je vais dire 26 semaines, donc c'est ça dans votre main. Ce qui fait en sorte que pour moi, marcher, c'est un petit peu plus compliqué. Je marchais avant, j'ai eu une opération qui m'a cassé la hanche et d'autres problèmes de santé qui font en sorte que maintenant, je me déplace en fauteuil. Mais mon enfance a commencé très difficile depuis un jeune âge. Hein. On pense que parce qu'on est handicapé, qu'on a des parents aimants qui donnent beaucoup et tout ça. Moi, j'étais dans une famille qui a eu de la violence familiale, conjugale. J'ai été battue depuis de 6 à 15 ans chez moi.
Enfant qui a subi de la violence parentale?
Oui, parce que quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, je riais ou tout ça, ou j'avais d'autres choses. J'urinais beaucoup dans mes pantalons. C'est un fait, j'étais très jeune. J'urinais beaucoup dans mes pantalons. Et puis, je pense que mes parents ils se sont servis beaucoup de ça comme excuse pour me frapper à coups de ceinture. J'ai eu les mains à la gorge. Je me suis fait traiter de truie, de traîner, de pisseuse, des coups de bottes dans le corps.
T'avais quel âge à peu près, là? On parle de quel âge?
Quand moi, j'ai commencé à être frappée, là, si je peux dire ça officiellement, j'avais à peu près 6-7 ans. Mais je me souviens à peu près à 6 ans, je me souviens que puis ça, mon géniteur s'en est toujours vanté. Pour venger de ma mère, il s'avait déguisé avec une cagoule. Puis moi, je me rappelle de ça. J'étais assis sur un divan, puis il avait mis une cagoule, il est rentré dans la maison, puis il a fait des menaces, puis il a comme viré de bord la table. Puis moi, je me rappelle, j'avais des petites affaires avec les lumières que tu te mets sur la tête là, dans les années 90, à la fin des années 90, oui. J'avais ça dans les oreilles. Puis je me souviens encore de ça. Donc, moi, peut-être de 5 à 15 ans, j'ai écouté. Je ne suis pas la seule dans ma famille. Il y a eu d'autres enfants, mais je n'ai pas à parler pour eux. C'est mon histoire à moi aujourd'hui.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Dans le fond, tu as été un enfant battu.
Oui.
Intimidé. Malgré le fait que tu aies une paralysie cérébrale, un handicap qui est quand même sévère à quelque part. Là.
Moi, je te dirais quand même léger, modéré. Mais ça ne fait pas en sorte que parce que tu nais au monde avec un handicap, que ça t'empêche de vivre la violence. Puis c'est ça, il faut que les gens le sachent. Parce que quand les gens ils voient que tu es handicapé, ils pensent que tu es des parents un peu surprotecteurs, qui vont t'aimer, qui vont t'aider dans la vie. Moi, j'ai eu aucunement de ça.
T'avais pas d'amour ni de ta mère, ni de ton père?
Oh non. Puis non. Ben, en fait, mon père, je pense que je te dirais un peu plus. Puis c'est bizarre à dire. Ma mère, elle m'attaquait plus au niveau psychologique. Puis mon père, c'était physique. Puis celui avec qui j'avais des pires relations, c'était ma mère.
Fait que ça n'a pas été facile.
C'est bizarre, hein?
Ça brise une estime d'un enfant, ça.
Ben, ça brise un enfant, mais quand t'es jeune, là, Richard, tu t'en rends pas compte. Tu te dis que c'est ça, l'amour, finalement. Tu sais, c'est un peu le syndrome de Stockholm, mais pour enfants.
Parce que tu connais juste ça.
C'est juste ça que tu connais. Moi, là, jusqu'à 16 ans, là, mon père, c'était l'héros de ma vie, là. Ce géniteur-là, c'était l'héros de ma vie. Puis regarde, aujourd'hui, quand je suis sortie, quand je suis habitée vivre chez ma tante, il s'en est calissé, moi, là.
Fait que dans le fond, là, bon, ça, c'est. T'avais quel âge? Excuse-moi, j'avais mal compris tantôt. T'avais. De quel âge à quel âge?
Je te dirais de 5 à 15 ans. Bon, que ça a duré.
De 5 à 15 ans, là, t'as vécu beaucoup de violence. Puis là, à 15 ans, ben là, c'est sûr que je vais reculer quand même un peu. On va rester un peu là-dedans. Quand t'allais à l'école, est-ce que les professeurs voyaient ce qui s'arrivait? Parce que, mettons, à 8 ans, t'allais à l'école, là, tu sais, à 7 ans, t'allais à l'école.
Oui, j'allais à l'école. Et moi, là, j'aimais tellement ça, l'école, Richard. J'étais une petite fille qui était étudiante. J'aimais ça. Dans un temps, c'était mon moyen de fuir. C'était le seul monde que j'avais pour jouer, pour m'amuser. Puis, tu sais, comme je te dis, Richard, quand t'es jeune, là, quand tu te fais frapper, quand tu te fais brasser, tu te dis que c'est de ta faute, à toi. Moi, je les aime. Tu te dis, ben moi, je l'aime, papa puis maman. Je veux pas qu'il leur arrive quelque chose de mal parce que toi, là, c'est juste ça que tu connais quand tu es enfant. Fait que pour toi, c'est bien normal. Fait que c'est sûr qu'à 7-8 ans, tu vas pas dénoncer ta mère. Mais tu sais que quand toi, tu arrives à la maison, que tu vas peut-être y goûter si tu t'échappes.
C'est ça. C'est pas facile. Quand tu étais à l'école, t'étais-tu en jouer? T'avais-tu quand même un gros goût de vivre?
J'aimais jouer, j'aimais chanter avec mes amis, j'étais dans des chorales, j'aimais la piscine, je faisais des courses à marchette. Je dis, je pense que j'ai été une très bonne actrice parce que.
Oui, une très bonne actrice.
Honnêtement, j'aurais voulu que. C'est plate à dire, j'aurais voulu que mes parents me frappent assez fort, là, pour qu'on puisse le voir.
C'est sûr que ça me donne des frictions, tu sais, de t'entendre. T'es toute fragile, t'es toute petite, t'as l'air toute fragile. Mais dans le fond, ça a forgé la femme que t'es aujourd'hui. Hein? On voit bien le voir, puis on le voit déjà. Vas-y.
Ben, écoute, mais j'ai beaucoup de gens à qui j'ai reparlé, des professeurs, des physiothérapeutes, ils disent non, on s'en doutait. Mais tu sais, des fois, c'est dur à prouver, puis ça, c'est pas de la faute de la DPJ. J'étais en train d'écrire un livre. Il y a des règlements dans tout ça. Puis, tu sais, on se fait dire, la maison est propre, les parents ils ont l'air fins quand on y va. Faudrait arrêter de prendre des rendez-vous, puis de dire, on va aller voir chez vous, c'est correct. Non, arrêtez de prendre des rendez-vous, là, puis allez-y sur le fait. Vous allez voir que.
Les matantes, puis les mononcles, puis les cousins, puis les cousines.
Ça, je veux pas
Non.
C'est personnel à eux. Moi, j'ai deux de mes tantes avec qui je suis quand même proche. Quand je te dis que c'est un cercle de la vie, comme les parents de mon père, ça n'a pas été mieux non plus. C'est un cercle de vie. Là. Mais j'ai deux tantes avec qui je suis proche. Il y a une tante qui m'a justement hébergée. Je veux dire, on se parle pas beaucoup, mais j'y dois beaucoup quand même. C'est grâce à elle. Si j'ai été loin... dans mes études, puis c'est ce que je suis aujourd'hui. Elle m'a quand même donné un toit, puis tout ça. Puis quand j'étais jeune, je marchais encore à quatre pattes, là, chez nous, dans la maison. Là. De 5 à 15 ans, je marchais encore à quatre pattes. Puis c'est elle qui m'a dit, là, ce serait peut-être le temps que tu arrêtes de marcher à quatre pattes. Là. C'est pas un chien. Puis elle avait raison. Puis elle m'a encouragée à marcher, elle m'a encouragée à aller plus loin dans mes études. Puis c'est grâce à elle aujourd'hui, un peu, si je fais le métier que je fais. Parce que si elle ne m'aurait pas poussée, je ne serais pas au poste que je suis aujourd'hui. Certes, ça n'a pas toujours été facile,
Mais dans le fond, tu es partie de chez tes parents à 15 ans?
Non. Il y a une situation de vie qui a fait, je pense que ça m'a sauvé la vie. Mes parents s'étaient chicanés. Mes parents s'étaient chicanés assez fort pour que les policiers emmènent mon géniteur, si on veut, parce que j'aime pas l'appeler mon père. Puis ma mère, ma génitrice, elle a dit, ben moi, j'emmène les deux autres enfants que j'aime le plus. Puis elle a dit à moi, puis à mon frère, puis à ma grand-mère, ben débrouillez-vous tout seul. Fait que ma mère était partie, elle a pris l'argent dans le portefeuille de mon géniteur. Puis elle a fait, ben débrouillez-vous tout seul. Puis ma tante, avec son grand cœur, ils ont dit, ben écoute, on laissera pas Nina comme ça. Puis c'était supposé être temporaire, puis de vivre chez ma tante, finalement. Puis quand j'ai vu comment j'étais bien, puis elle m'a fait réaliser beaucoup de choses parce que je mettais cet homme-là beaucoup sur un piédestal. Elle m'a dit, puis je me suis rendu compte de tout ce qu'elle avait fait. Tu sais, quand tu sors de ta bulle, là, tu vois tout ce que tu as vécu. Puis pour lui, c'est comme si, ben c'est la faute de ta mère, elle me rendait fou. Tu sais, j'ai pas voulu ou dire des affaires. Il y a tout le temps une excuse, c'est tout le temps, ses actes étaient tout le temps la faute de quelqu'un d'autre, en fait.
Hey, gars, tu viens de. Tu nous le dis, là, dans le fond, on comprend bien que c'est pas parce qu'on est une personne en situation de handicap, un enfant en situation de handicap, qu'on vit pas la même chose que les autres, que on vit, non. Que ce soit des bonnes expériences, des mauvaises expériences, on vit à peu près les mêmes affaires. Puis là, toi, tu en es un exemple, tu as un côté dark de la vie. Tu as été une enfant qui a goûté. T'avais-tu quand même des plaisirs de temps en temps avec ta famille?
Je ne pourrais pas te dire parce que je pense que si j'en avais, j'espérais. Tu sais, c'est comme. Comment te dire ça? Tu te fais croire que c'est parfait. Je te dirais, je n'ai même pas de bons souvenirs avec ma génitrice.
T'as des frères et t'as des sœurs?
Oui.
Ils sont où?
Je ne vais pas dire la localisation.
Mais je dis par rapport à toi. Par rapport à toi, ils sont où par rapport à toi?
Pour moi.
Savoir, je ne veux pas savoir s'ils habitent.
Pour moi, c'est ouais. Des. Pour moi, c'est. J'ai des frères et des sœurs, mais j'ai pas de relation avec eux, puis j'ai pas l'intention d'en avoir.
Puis pourtant, tu vois, malgré ce fait-là, le fait que, dans le fond, j'entends bien que tu n'as pas de famille à part ta tante qui t'a vraiment aidé. Puis on va y arriver.
Mais j'ai deux de mes tantes puis une cousine avec qui je suis bien, bien proche.
Toutes tes tantes.
Peut-être ces trois personnes-là qui me restent encore dans la famille.
OK.
Mais les autres, tu sais, oui, j'ai des frères et sœurs, mais ils ont la tête un petit peu dans le sable. Beaucoup dans le sable.
C'est pas toujours facile. Ça n'a pas été facile, ta vie, en tout cas, d'enfant et de pré-ado. Mais
non,
là, mon
année. Que...
Vas-y.
Ça, c'est dur de se construire en tant qu'adulte, en tant que femme, parce que tu sais ce que je. Puis je pense que tu vas être d'accord un peu avec moi hein, quand Richard, quand on parle des handicaps. Il y a aussi l'amour là-dedans. Hein? On a nos relations interpersonnelles avec.
Oui.
Des amants, des amis, des conjoints. Puis, ben tu sais, avec la base qu'on a eue, des fois, on est un peu brisé, on est un peu saccagé par en dedans, tu sais. Les piliers qui étaient supposés de nous élever puis de nous aimer, ben c'est nous qui se construisons toute seule après ça.
L'école primaire que tu allais, est-ce que c'était une école spécialisée ou une école, entre guillemets, normale?
Non, c'est Victor Doré.
Tu as été à Victor Doré, donc une école spécialisée.
Oui.
C'est des bonnes personnes qui travaillaient là. C'est des gens qui t'encadraient bien, par exemple. Quand tu arrivais à l'école, oui. Tu étais heureux, j'imagine.
Regarde, ces gens-là m'ont. Tu sais, quand ils disent, là, on dit en anglais, it takes a village.
Oui.
Ben, ça prend un village. Ben, ils m'ont tellement apporté de l'amour quand j'étais jeune. J'avais une physiothérapeute, tu sais, là, j'ai peur de dire des noms, mais j'avais une physiothérapeute qui, pour moi, je l'aimais comme ma mère. Tu sais. Je voyais qu'elle avait adopté deux enfants, puis quand j'étais jeune, je me disais, si elle m'avait adopté, moi aussi.
Mais je pense que tu peux dire son nom, parce que c'est pas méchant ce que tu as à dire sur elle. Ça. Elle s'appelait comment?
C'est Suzanne.
Suzanne? Qu'elle s'appelait. Suzanne, comment?
Suzanne Fortin.
Oui, je pense que je la connais un peu aussi. Donc, c'est comme ta mère. C'était comme ta mère. Fait que tu allais chercher l'amour que tu n'avais pas à la maison. Toi, tu allais la chercher. Tu allais la chercher à l'école, là, au primaire.
Ouais.
Puis là, bon, par la force des choses, tu t'es retrouvé chez ta tante. Ta tante, est-ce que tu peux la nommer? Hein? Est-ce que tu peux.
Pour l'instant, je ne suis pas à l'aise.
D'accord.
Je vais juste dire ma tante.
Mais ta tante.
Peut-être que quand elle va écouter mon balado, elle va être contente.
Ta tante, elle, c'est une femme qui t'a sauvé.
Oui. Je veux dire comme ça, elle m'a donné un toit dans la vie.
Puis elle te donne de l'amour aussi.
Oui, c'est sûr que nos relations n'ont pas été faciles dans les dernières années.
Mais toi, tout le monde va dire « Ouais, mais là, c'est peut-être elle qui est un enfant difficile. » C'est pas parce que tu es handicapé que tu n'es pas difficile. T'étais-tu une enfant troublée, troublante puis fatigante? Malgré que ça ne mérite pas des tapes à gueule pareil. Mais je veux dire, t'étais-tu une délinquante?
T'étais-tu une délinquante? Non. Mais je pense que si j'avais eu mes jambes, puis j'ai toujours dit que mon handicap m'avait sauvée d'un autre côté. Tu sais, la fugueuse, là.
Ouais.
Ça aurait été moi. Ah ouais, solide, parce que j'étais naïve, là. Moi, quelqu'un disait que j'étais belle, puis j'étais fine. J'avais les cœurs au-dessus de la tête, là, même encore, là, jusqu'à 26 ans, là. Okay. Tu sais, les belles paroles, c'est facile, mais tu sais, quand t'as pas eu... beaucoup d'amour, ben tu prends un peu n'importe quoi.
T'étais une bonne victime, dans le fond.
Ah oui, moi, j'aurais été la victime idéale. Il n'aurait pas fallu que je sois capable de marcher. C'est soit je me sauvais ou soit je me jetais en bas d'un pont.
C'est ça. Mais là, on revient à ta tante. Tu es rendue chez ta tante, tu es une adolescente, tu as 15 ans, 15, 16 ans. Là, ta tante, OK, vous avez des petits conflits. Mais elle t'a vraiment sauvé, de ce que je comprends. Elle t'a dit, bien là, il est peut-être temps que tu arrêtes de marcher à quatre pattes. qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter de marcher à quatre pattes? Elle dit, lève-toi. As-tu pris la Bible et elle dit, lève-toi et marche?
c'est carrément ça. Elle m'a dit, écoute, non. Commence à marcher tranquillement dans la maison. Puis elle me faisait marcher. Elle dit, OK, bien là, tu t'en vas dehors puis tu vas marcher avec tes béquilles. Puis après ça, ben je faisais des marches d'une demi-heure, une heure. Puis je marchais dans la maison après ça. Puis ça a fonctionné de même. Puis notre running gang, c'était Rocky, Adrienne. Fait que quand j'arrivais de la maison, là, okay, après ma marche, je disais « Adrienne! » Fait qu'on criait de même. Puis c'est des beaux souvenirs que j'en garde. C'est comme si ça a pas... Il y a eu des petits conflits. Mais moi, je laisse pas les gens dans l'inconnu. Si je peux y donner ça dans la vie... Merci énormément.
Elle t'a vraiment aidé. Puis comment ça s'est passé à part ça, l'adolescence?
Beaucoup d'anxiété.
Oui.
Oui.
Oh.
Parce que quand j'ai commencé à aller chez ma tante, j'avais 16 ans, je m'en allais sur 16 ans, puis à 16 ans, ben, tu sais, ma tante, elle voulait quand même que, même si elle savait que mon géniteur, puis ma génitrice n'était pas correcte, elle était comme, écoute, tu sais, je sais qu'elle t'aime beaucoup ton père. Tu sais, je me rendais pas encore compte de ça. Tu sais, je n'étais pas encore sortie de ma bulle dans laquelle j'avais toujours vécu. Donc, une fois, je sais pas pourquoi, ça n'a peut-être pas un lien, mais j'avais commencé à prendre la pilule. Puis, je pense que ça m'avait fait déclencher une crise d'anxiété.
Okay.
Puis, j'étais chez mon père. Puis, mon père, il avait pas un très grand appart. Fait que lui, il prenait le sofa. Puis... moi puis mes soeurs, on dormait dans la chambre, puis c'était le temps des fêtes. Puis j'avais bu un petit peu, je me pensais, un petit shooter. Puis je me suis réveillée en pleine nuit, puis le cœur qui me palpitait comme ça se peut pas. Moi, je comprenais pas, je pensais que j'allais mourir. Puis je me suis dit, papa, mon cœur va vraiment pas bien, là, je pense que je vais mourir. Il m'a juste regardé, puis il m'a dit, ben tu crèveras. Il a fermé la porte.
Et mon Dieu, hein?
Hein?
Pas de problème avec ça.
Quand je l'ai appelé pour lui dire que je trouvais pas ça correct, ben il m'a dit « Tu peux bien crever, moi, je m'en calisse. »
Aïe, aïe, aïe. Ça doit...
Comment Dieu. Détruire une adolescente? Puis qui aimait son père.
Qu'est-ce qu'elle se dit, Nina?
Malgré qu'il la frappe.
Mais Nina, elle se dit quoi dans sa tête?
En ce moment ou dans ce temps-là?
Dans ce temps-là.
Aïe, aïe. Puis aujourd'hui, je me dis, t'es la pire rapace au monde.
C'est comme qu'ils mangeons de la merde.
Ouais, mangeons de la merde.
Mangeons
pour de la merde. Mange donc de la merde.
Tu sais, je dis.
Parce que lui, il dit, tu sais, moi, lui, il disait, moi, mon père m'a fait les mêmes affaires. Je m'en fous que ton père t'ait fait la même affaire. C'est pas une excuse pour traiter. Puis ça, c'est juste une. T'essaies de trouver une passe droite pour mettre ta souffrance sur quelqu'un d'autre. Gratuitement.
Je suis vraiment horrifié. Hey, ça se peut-tu pareil, hein? Hey, on y dit ça ensemble. Il n'y a
pas juste
lui. Hey, on va y dire ensemble, si. 3, 2, 1. Mange donc de la marde.
Mange la marde. Calice.
Ben. Ça fait. Me semble que ça fait du bien, ça, hein?
Ah oui, certainement. Puis, tu sais, le pire, là, c'est que dans l'émission, comme on va en parler, là, je vais te laisser continuer le show.
Oui. Ben.
Vas-y.
Mais moi, je suis encore à ton adolescence. Puis là, j'espère entendre des belles affaires aussi, tu sais. Parce que moi, rendu à ta place, là, j'allais me pendre dans la chambre de bain, là, sur mon acte. C'est pas évident.
Ben, j'ai voulu me suicider en 2009 avant d'habiter chez ma tante. Quand j'ai vu que mon père prenait ma mère là, dans sa vie, j'ai dit, oh mon Dieu, papa, t'es un esti de fou, moi, je vais me tirer une balle dans la tête. Parce que oui, mon géniteur, il n'a pas été correct. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais pour moi, mon pire némésis, ça a été ma génitrice. Puis j'en parle, puis c'est comme... Cette femme-là, elle aurait dû être internée à Pinel, là.
OK, c'est une... Elle avait une maladie mentale? Ou
mais moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Elle était toxicomane, puis elle avait des problèmes. Ça, c'est sûr que oui.
Tu viens d'un milieu très, très difficile, hein? Ça, c'est clair, là.
Oui.
Ouais. Un milieu très difficile. Puis tu vois, c'est drôle parce que j'ai écouté un documentaire cette semaine sur Netflix, je me rappelle, ou Prime, je ne me rappelle plus quelle plateforme, où c'était une jeune fille, c'est drôle. On dirait que c'était toi, dans le fond. C'était à peu près la même histoire, sauf qu'elle avait ses jambes et toute sa mobilité. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'elle avait des mauvaises fréquentations aussi. On dirait que c'est un cercle vicieux, hein? Quand on vient d'un milieu dur, on dirait qu'on veut le rester. Fait que le rencontrer quelqu'un, puis le tuer finalement. En tout cas, c'est une histoire. Mais toi, t'es pas morte. Fait que ton histoire va évoluer dans le bon sens.
Oui, oui. Je suis contente. Je suis heureuse. Puis
là, t'es ado. T'avais-tu des amis, oui, ado?
Oui, j'avais des amis. Puis je me faisais intimider un petit peu à l'école.
Ah oui, parce que tu m'as dit ça quand j'étais à l'hôpital, parce qu'on a parlé.
On ne veut pas nommer de nom, OK? Parce que les gens avaient le droit d'être adolescents.
Non, on nomme pas de nom. On nomme pas de nom, mais tu m'avais dit que j'ai été intimidée. Moi, j'en venais pas parce que je te voyais. Je veux dire, quand je te voyais sur les réseaux sociaux, ces choses-là, je me disais, hey, ça doit être une fille populaire, ça. Mais pas partout, tabarnouche.
Ben, à un moment donné, oui, j'ai comme quand les gens ils ont arrêté, il y a une partie que pour certains, j'étais vue comme populaire, puis il y a une autre partie que j'étais vue parce que j'étais comme superficial. Tu sais, fait que même qu'il y a eu des profs qui ont dû intervenir là-dedans, là, comme, parce que, tu sais, justement.
Là, tu étais à Joseph.
Oui, j'étais à Joseph, oui. Puis, tu sais, comme, prenais beaucoup d'espace. Ça, c'est vrai. Moi, j'étais une personne qui rit, j'étais une personne qui aime faire des jokes. Puis, tu sais, je prenais de la place parce que je me disais, Colin, moi, je me suis fait taire toute ma vie. Je veux prendre ma place, tu sais. Des fois, peut-être, ça me rend compte. Je l'ai peut-être un petit peu trop pris, mais tu sais, quand t'es adolescent, tu t'en rends pas compte.
Mais c'est normal.
Fait que. Mais tu sais, en même temps, j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai pas eu le temps d'être un enfant. J'ai pas eu le temps d'être adolescente parce que déjà adolescente, ben on me faisait mon trousseau de maison pour me trouver un appart. Fait que c'est ça. Fait que Joseph Charbonneau, je leur dois beaucoup. C'est eux qui m'ont trouvé un appartement, c'est eux qui m'ont
meublé. Ils t'ont aidé à t'intégrer dans la société.
Ouais.
Mais il faut en parler un petit peu, hein. L'école Victor Doré et l'école Joseph Charbonneau, ce sont une école primaire et secondaire. Qui,
oui.
La clientèle, c'est des personnes en situation de handicap. Là, dans ces écoles-là, on y retrouve inhalothérapeute, physiothérapeute, ergothérapeute, bref, tout le personnel pour nous emmener un petit peu plus loin. Tu sais, Nina, qu'il y a des gens qui sont contre ces écoles-là, des gens qui sont handicapés, là. Et je vais te dire pourquoi, parce qu'ils veulent être intégrés dans des écoles dites normales. Je suis d'accord dans un sens, mais dans un autre sens, je pense que c'est le fun d'être entre nous, entre des frères et sœurs qui vivent la même chose. T'en penses quoi de ça?
Je te dirais que je suis moitié-moitié.
Vas-y.
Parce que, autant, moi, j'ai toujours été honnête, puis je l'ai toujours dit à une personne qui travaille là-bas, on est beaucoup aidés. C'est vraiment génial. Moi, j'ai rien à dire parce que, tu sais, ils m'ont trouvé un loyer, ils m'ont nourri après une grosse opération. Mmh. C'est ma famille, ces gens-là, tu sais. Mais en même temps, je trouve que des fois, on est un petit peu trop coucouné. Hein? On est un petit peu infantilisé, je te dirais.
Oui, peut-être à ton époque, mais à mon époque, à moi, c'était à couper dans le cul, ça marchait. Là.
OK, ça on n'est pas sur la même époque.
Non, je suis pas mal plus vieux que toi. Mais c'est pour ça que tu m'appelles, tu m'appelles daddy, c'est pas pour rien. Là.
Ouais, Richard, c'est mon daddy, parce que tu sais, moi, on le sait tout, là, j'ai des daddies et choses.
Faut
rire un peu, Richard.
Pas mal plus vieux. Fait que là, tu trouvais qu'on était trop infantilisé maintenant.
Un petit peu, je te dirais.
OK. Oui. Fait que là, tu me dis, ils t'ont aidé à trouver ton appart parce que tu as décidé donc de quitter ta tante.
Ben, en fait, c'est que il y a une situation. Ça, je veux pas en parler parce que c'est personnel à nous deux.
Oui.
Puis on a tous nos deux côtés. Puis je pense que malgré tout, on s'aime. Fait que j'ai eu une opération, puis j'ai dû quitter, puis je suis partie d'appart en appart. Puis d'appart, c'est des gens qui m'ont hébergée. Puis après ça, la dernière personne qui m'a hébergée, c'est Nathalie puis Alain avec Ariane. Si vous avez vu l'émission d'année au suivant, vous allez voir de qui je parle. Pour moi, ça, c'est ma maman. J'ai plein de mamans, tu vas voir, là, j'ai plein de mamans puis papa. Moi, je suis la plus chanceuse parce qu'au lieu d'en avoir juste un de chaque, j'en ai un pas mal partout. Oui. Je l'appelle Mom.
Mais tu es une femme très attachante. Hein? J'ai vu quand on était à l'Institut thoracique, en même temps, les infirmiers t'adorent, là-bas, les infirmières t'adorent.
Ah oui, eux autres, là. Quand ils m'ont vu revenir, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas montée sur leur étage, quand ils m'ont vu, c'était quasiment la fiesta. Hein?
C'est ça. C'est drôle. C'est drôle, Nina, parce que d'un côté, de côté de sang, ces gens-là ne te donnaient aucun amour. Mais pourtant, pourtant, tu es très attachante. Puis il y a plein de gens qui veulent te donner de l'affection.
Oui. Oui. Puis c'est fou comment j'ai de l'amour, comme j'ai du support. T'sais. Là, je te parle de ma tante avec qui j'ai habité, mais j'ai aussi mon autre tante.
Okay.
Mon autre tante qui s'appelle ma tante Laurette. Donc, on a vécu un peu le même pattern, un peu différent. Fait qu'on se comprend beaucoup. Puis, tu sais, elle m'invite à chaque Noël.
Oui.
Elle m'appelle pour ma fête. Elle fait des choses pour ma fête. Elle fait des gâteaux. Fait que oui, j'ai pas nécessairement toute la famille que je voudrais, puis j'en ai coupé certaines personnes qui sont des cousins pour certaines raisons vraiment personnelles à moi, puis aussi pour mon métier.
On a compris, en tout cas, on comprend bien que tu n'as pas eu une vie facile. Mais cette vie-là a forgé la femme d'aujourd'hui, et je veux qu'on parle de la femme d'aujourd'hui qui s'était épanouie. Là, l'adolescente à Joseph Charbonneau, parce que tu t'es quand même épanouie. Tu n'as pas fini sur l'aide sociale, dans le fond, d'un 1,5. Tu sais, je veux dire, toi, ta vie, là, malgré le fait que tout le monde t'a brisé parce que tu as été une femme brisée, si je me trompe, tu me dis, wow, les nerfs, c'est pas vrai. Mais c'est ce que j'entends aujourd'hui. Non, non.
Pardon? J'étais au sol. Même en appart, là, je me suis fait défoncer ma porte une fois. Je me suis fait tout en cambrioler, ce qui vient avec l'émission de Chantal Lacroix de nos suivants. Après ça, j'ai tenté de me suicider. Là,
T'avais quel âge, là? T'avais quel âge?
Je m'en allais sur 23 ans.
Puis
J'en ai 28 aujourd'hui.
Tu as voulu faire une tentative de suicide?
Oui, parce que on venait de m'enlever un rein. Puis j'urinais encore du sang. J'avais tout le temps mal. Puis personne à l'hôpital me croyait. Jusqu'à temps qu'on me dise, oh, ben, t'as une pierre de poignée dans ta vessie. Puis ça a fait en sorte que je pense que inconsciemment, tu sais, quand je te dis, tu sais, quand tu me dis, on le voit sur les réseaux sociaux, t'es toujours de bonne humeur. Mais ben, les amis, comme vous le savez, c'est juste les réseaux sociaux. Hein.
Fait que ça veut dire beaucoup.
C'est même pas. Ça veut. Regarde, je pense que j'ai. Même pour moi, je pense que je m'en ai pas rendu compte. Je pense que j'étais en dépression sans le savoir.
OK.
À un moment donné, je pleurais. Je savais pas pourquoi je pleurais. J'écoutais une musique, je pleurais. J'écoutais un film, je pleurais. Je pense que inconsciemment, j'avais pas sorti tout ça. C'est comme le fait de te faire battre quand t'es jeune. Après ça, tu changes de maison. Tu changes encore de maison. Tu essaies de trouver un loyer. Là, tu es dans ton propre appartement, puis on t'annonce que tu vas te faire enlever un rein. Mais aucune personne de ta famille vient te voir quand tu viens de te faire enlever un rein. Que tu vomis tes tripes. Mais en fait, j'étais seule du côté familial, mais j'ai eu tellement des amis qui m'ont visité, qui m'ont emmené des Oreos, qui m'ont emmené des spaghettis, qui m'ont emmené des chips, qui m'ont rempli mon frigidaire de bouffe quand je suis revenue à la maison, qui m'ont fait une carte avec de l'argent. J'en parle, puis j'ai le gorgoton.
Ça fait du bien.
Oui.
Ça fait du bien. Fait que t'as voulu te... Mais je comprends. Parce que c'est pas. T'as pas eu une vie facile. T'as pas eu une vie facile, puis c'est tout en ton honneur aujourd'hui d'être devenue une femme épanouie. Parce que, ben écoute, tu sais que je me trompe. Est-ce que t'es une femme épanouie aujourd'hui?
Oui, je pense que j'essaie.
À part que t'aimerais que j'habite avec toi, mais c'est pas possible, tu sais.
Mais non, je pense que tu m'en vas sur la bonne voie. Là, je suis un peu émotionnelle parce que j'en parle, puis c'est comme bon. Beaucoup d'émotions en même temps.
Ben oui. C'est-tu quelque chose? C'est-tu des choses que tu caches beaucoup dans le fond de ton cœur, ça? Aujourd'hui,
non, pas vraiment. Moi, je parle de ça comme si je ferais une sauce à spaghetti.
Oui.
C'est juste que des fois, quand tu te rends compte que tu es tout seul, ben, t'es pas vraiment tout seul.
C'est ça. Il y a quand même un message d'espoir en arrière de ça.
Oh.
Il y a un message d'espoir.
Vous allez vous en sortir.
On va s'en sortir, oui. Prends deux
secondes. C'est toi qui m'éblouis aussi.
Prends deux secondes. Mais là, tu t'es aperçu que finalement, tu étais moins seul que tu le pensais.
Beaucoup moins seul.
Fait que
c'est ça aussi qui me touche.
Le projet suicide, c'est un projet que tu as laissé tomber?
J'étais sur le bord. J'avais avalé deux pilules de morphine. Parce qu'on m'a dit, ben, tu peux juste prendre ça pour ta douleur. Ça doit être tes douleurs fantômes de ton rein. Ouais. C'est pas parce que tu es médecin que tu es nécessairement bon dans la vie.
Ben non.
Fait que j'ai dit, ben, tiens, j'ai mal, moi. J'ai mal pour vrai. J'ai le mal de vivre, je vais pisser, puis c'est le calvaire. Mon cœur, mon âme a mal. Puis je venais de me faire un laisser, si on veut, d'une relation in and out.
Ouais.
Puis ça a tombé toute la même journée. Fait que quand on s'est dit que ça marchait pas, moi, ça n'allait pas bien. Fait que j'ai dit, ah ouais, ben, et en même temps, c'est pas de la faute de l'autre partie. J'avais mes blessures, on avait nos blessures. Puis ben, moi, c'est la seule solution que je voyais cette journée-là, c'était de mettre fin à mes jours.
Oui.
Puis j'ai pris deux pilules de morphine, puis par accident, je me suis assise sur mon iPhone. Puis j'ai une grande fan de Bob Marley. Okay. Puis j'ai entendu Redemption Song. Je sais pas si tu la connais.
Absolument.
Mais donc, quand je me suis mis à écouter ça, je me suis dit... Moi, je crois aux esprits, puis tu sais, comme aux énergies là, de la vie. Puis j'ai dit, Bob Marley, là, il te parle en ce moment-là. Tu sais, fait que laisse-toi une chance, tu sais, traverse ça. Puis je suis allée en maison de crise. c'est pour les personnes qui veulent.
On dirait que tu as eu un message. On dirait que tu as reçu un message. Un message de jour déjà.
Oui. Puis je me suis dit. Puis je ne l'ai pas dit à personne. Après ça, j'ai écrit une lettre à mon papa, que moi, je considère mon père, qui s'appelle Benoît. Pour moi, c'est mon papa. Puis j'ai dit, papa, j'ai tenté de
Mais c'est qui, ça, Benoît? Mais il vient d'où, Benoît? C'est qui?
Je l'ai rencontré à l'école Joseph Charbonneau.
OK.
C'est un... Fait que c'est ça. Puis j'ai dit, papa, j'ai dit, moi, là, je suis rendue là dans ma vie. Je suis plus forte que mes blessures. Je suis plus forte que ceux qui m'ont fait mal dans la vie. Je suis plus forte que ceux qui m'ont abandonnée dans ma famille. Je suis plus forte que ma souffrance. Puis je te le promets qu'un jour, je vais sortir mon livre puis que je vais être répartitrice 9-1. Puis qu'un jour, je vais t'emmener tes petits-enfants.
Oui. Puis c'est ça qui est arrivé.
Ben là, je suis répartitrice. J'ai pas les petits-enfants encore.
Bon. Mais parlons de ça. Mais parlons de ça. Parce que moi, j'aimerais qu'on parle de la femme maintenant qui s'est relevée après des épisodes difficiles. La femme qui s'est accomplie. Parce que là, toi, avant d'avoir le travail que tu as maintenant, on va parler tantôt, dans pas long, tu as quand même travaillé au 911 pour le SPVM, c'est ça?
Non, j'ai travaillé pour urgence santé, en formation.
Oui. Fait que tu as été à urgence santé un bout de temps. Là, tu as sauvé des vies avec... comment ça se passait là-bas? Est-ce que les gens, le fait que tu as un handicap, comment ces gens-là agissaient avec toi?
Non, ben les gens, ils te traitent comme un autre. Hein. C'est pas parce que tu as un handicap que tu vas être plus chouchouté. Ben, on m'appelle chouchou. Mais on me traitait différemment, comme avec tous les droits, de tout le monde a le droit au même droit.
Mais tu ris, mais c'est pas ça, mais c'est parce que, tu sais, c'est pas rare que des gens me disent, oui, mais moi, si je rencontre une personne avec un handicap, comment je dois agir avec... Écoute, tout le monde se pose cette question-là, je sais pas pourquoi, ça n'a pas rapport, là, cette question-là.
On avait mais je pense qu'on a peur de toucher une corde sensible. Je pense que, justement, il faudrait que les gens arrêtent d'avoir peur. Je pense qu'il y a beaucoup... ce que j'ai juste mon anglicisme, là, assumption. Les gens, ils se font vraiment un peu une image. Genre, si on lui demande ça, elle sera peut-être pas contente. Je vais peut-être créer un malaise. Puis, des fois, c'est vraiment tout le contraire. On aimerait ça faire des jokes d'handicapés avec vous. On aimerait ça que vous arrêtez de nous voir. Moins ouais. qu'on est. On est des êtres humains. On baise.
c'est clair, là. Quand je faisais mes conférences, je me faisais poser celle-là. Ouais, mais tu bandes-tu?
Ben ouais, mais c'est ça qui tient le bout.
Ben oui. Ben ouais. Mais tu sais, quand Mac Ward il a fait la joke, ce petit Jérémy, j'ai été le seul de notre communauté. Je parle de notre communauté, nous autres. J'ai une amie qui nous appelait les légumes autonomes. J'ai pris une. mais. Puis. Je suis le seul que dans Mike qui avait bien fait. Parce que on veut être comme tout le monde. Toi, tu as pensé quoi de cet événement-là, Mike Ward puis Jérémy Gabriel? Parce qu'on parle de faut agir comme tout le monde avec. Tu as pensé quoi de ça?
Ben, moi, je trouve ça malheureux pour lui. Ben, c'est parce que j'ai l'impression qu'il est comme une marionnette dans quelque chose. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus.
Mais, non, mais le fait...
J'ai
non,
une belle surprise. Fait, mais moi, fait. Je suis Mike Ward.
Oui.
Moi, je suis Mike Ward.
Mais le fait que Mike fasse une joke sur Céline, sur René, puisque moi, j'ai vu le show, là. Il fait une joke sur Céline Dion, sur René Angelil, puis un autre personnage public, c'est Jérémy Gabriel. Est-ce que parce qu'il est handicapé, on ne devrait pas faire une blague sur lui?
Non. Non.
C'est ça?
Non.
Tu sais, je veux dire...
Je pense que si... Moi, je vais citer les mots d'un de mes amis que tu connais probablement, qui est humoriste, qui est Angelo Ciraldi.
Oui.
Il dit, si tu avais juste parlé à Mike Ward pour dire que ta blague était un peu déplacée, je pense que Mike Ward aurait compris. Parce que l'ironie dans tout ça, c'est qu'avant que cet événement-là se passe, que ce soit dans les médias, Mike Ward est venu à notre école à Joseph Charbonneau, qui est entouré de personnes oui. handicapées. Ou comme dirait, moi j'adore Julien Poulin, et comme je dis, j'ai de l'humour noir dans son rôle de Bob Gratton, les infirmes. Moi, là, quand le monde me connaît pas, je me traite d'infirme, puis tu devrais leur voir la face. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, je ris de moi-même. Il faut que j'aie de l'autodérision envers moi-même. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense que si Jérémy avait dit à Marquette, écoute, ta blague, tu pourrais-tu t'en passer, s'il te plaît? Moi, ça m'a blessée. Je suis sûre que cet homme-là aurait compris. Je pense que... En tout cas, moi, je pense que il y a plus que Jérémy là-dedans, là.
Oui, oui, parce que... Donc, oui. Oui, puis aussi, là, le fait qu'il y ait eu cette blague-là, c'est de l'inclusion. Moi, j'y ai vu de l'inclusion. Puis c'est ça qu'on veut, l'inclusion. Mm-hmm. On veut être inclus ben partout. Oui. Bon, petite passe, Jérémy, c'est passé. Mais toi, là tu es une femme accomplie. Tu as travaillé pour Urgence Santé en formation. Est-ce que tu as un conjoint?
Non.
Est-ce que tu as eu des conjoints? Belle comme que t'es, dis-moi j'ai pas que t'as pas de chum.
J'ai eu des amants, des one day, des tout ça, mais honnêtement, avec tout le temps, j'ai jamais eu rien de vraiment sérieux encore.
Mais t'as un rêve, tu me le disais à l'hôpital, puis je t'oblige à le dire.
je veux mon chum, je veux mon enfant.
T'es obligé de me dire ton rêve, parce que t'as même rêvé au gars que tu veux, là.
Non, oui, ben moi, j'ai rêvé quand ma mère est morte. J'ai rêvé ben, quand ma génitrice est morte. J'ai rêvé quand ma grand-mère mourait. Je voyais... Je peux même te donner la preuve. J'ai rêvé que Luca, qui était là, Luca Lazy Legs, j'y ai dit là, quelques années avant, j'ai dit, j'ai rêvé que tu vas avoir une fille. Puis regarde, aujourd'hui, il est avec deux petites filles, deux belles petites filles, Aura puis Luna. Fait que moi, je pense que j'ai vu l'homme de ma vie. Je le connais, mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que mes rêves se sont trompés. Mais tu sais que là, mon motto de vie, là, moi, je pense à toi là, quand je pense à mon motto de vie. Parce que je me rappelle que quand on s'est parlé à l'hôpital, tu me dis 9-1, chum, bébé. Tu vois, ouais, ça va se passer.
9-1, chum, bébé. Mais là, le chum, là, t'as rêvé à ton chum, là. Tu sais pratiquement mais il est pas ça. Là, t'as eu une vision, là, de son look, non?
J'ai entendu son nom, mais c'est peut-être des fantasmes, c'est peut-être des rêves, parce que moi, quand je le vois, j'ai des rêves.
Ah ouais, ouais. Dis-nous-les, là. Dis-nous-les. Comment tu t'appelles?
Non, s'il vous plaît, je peux pas faire ça.
Ben, non, on va pas. Non, c'est vrai. Il faut pas jouer dans le futur, non. Parce que tout d'un coup, c'est ça. Là, t'as beaucoup d'espoir. Ben, tu as beaucoup d'espoir. Je dis, toi, tu as des rêves de femme. Tu veux un conjoint, tu veux des enfants. Combien tu en veux d'enfants, toi?
Quand j'étais jeune, là, j'en voulais 4. Aujourd'hui, si j'en ai un, ça va être en masse.
Oui, parce que...
ça va être en masse.
Il faut le dire, la génération d'aujourd'hui, là, ça va pas mal capricieux. Fait un, là, c'est comme si tu en avais 4. Fait que d'après moi, tu vas être correct.
Ben, j'aimerais beaucoup ça adopter. Je me dis, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents. Puis, tu sais, moi, j'ai été aimée de plusieurs, mais quand je te dis de plusieurs personnes, je me dis que j'aimerais ça donner moi aussi à quelqu'un à mon tour. Je veux dire, la planète est overpopulation. Il y a bien un enfant qui va vouloir de mon amour.
Ben oui. Mais toi, tu es capable d'avoir des enfants aussi, non?
Oui, oui. Même, dis-moi, je suis allée voir ma gynécologue cette semaine, puis elle m'a dit, mais tu t'appelles lui? Je dis, oui, je suis pas prête encore.
Tout marche bien là-dedans. De toute façon.
Tout va bien.
Tout va bien. Tu es une femme très accomplie, je l'ai dit tantôt. Là, parle-moi de ton métier maintenant, parce que tu as eu une très bonne nouvelle. Tu as passé des entrevues. Tu as travaillé fort pour l'avoir au 9-1 dans un grand corps policier qu'on nommera pas. Mais il n'y en a pas 46 grands corps policiers au Québec. Là, comment ça se passe avec tes collègues?
Oh mon Dieu, on fait des jokes. On fait des jokes, on rit, ils sont super fins. J'aime beaucoup mon travail. J'ai fait mon premier jumelage. Donc, ça, c'est après toute la formation. T'es jumelé avec quelqu'un pour prendre des appels.
T'es-tu. Sont-tu macho? Y a-tu beaucoup d'hommes? C'est-tu macho? Hey, une belle fille comme toi, là, sont-tu genre. Ouais, Nina, viens-tu prendre un café? Comment ça se passe?
Non! Non, parce qu'à chaque fois que je m'en vais là, je t'habille avec une toque dans sa tête. J'ai pas dormi, puis j'ai pas fait mon lunch, puis je te... Je suis stressée. Fait que... Non, non, ils sont super fins. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on dit, Richard? Hein? Don't fuck with the payroll.
C'est ça. Fait que... Mais t'es à l'aise.
Là, j'ai déjà eu un kick avec quelqu'un sur mon travail, puis quand le monde le sait, là, tout le monde le sait. Fait que... Nina, j'ai eu d'expérience, là.
Fait que t'as d'expérience, ben oui, c'est ça. T'as déjà dispatché.
On fera pas la même chose.
Mais c'est pas tout à fait pareil, mais. Puis Nina, toi, là, t'es une fille hyper brillante. Malgré le fait que t'as eu une enfance difficile, une adolescence difficile, à l'école, t'étais bonne. Puis là, je pense que tu parles 6 langues. C'est ça.
Je parle français, je parle anglais, je parle espagnol, je chante en italien, je parle créole. Une très bonne base du créole, ça fait déjà 5. Je peux parler un petit peu l'arabe, puis je peux chanter en chinois, puis je peux te parler un petit peu en tagalog.
Mais là, je peux tout savoir.
Ça fait 7 sous mes doigts.
Mais là, pourquoi tout ça? Je veux dire, tu veux-tu devenir, je sais pas moi, tu sais, il y a juste le pape, je pense, qui parle autant de langues que toi, là. Tu veux-tu, t'as-tu tes aspirations papales ou... Comment dire que tu parles toutes tes langues? Non, mais c'est quoi tout ça? C'est le chinois.
Mais j'ai toujours aimé la culture. Quand j'étais jeune, j'avais dit à mon géniteur que j'allais... Là, excusez-moi pour le mot, hein? Je dis ce que je dis comme quand j'étais une enfant. Alors, quand j'étais jeune, je disais que j'allais marier un noir.
OK.
Fait que moi, aujourd'hui, je suis très attirée par les Asiatiques et les Latinos. Non, ça me donne-tu une idée?
Fait que là, toi, t'as décidé d'apprendre toutes tes langues. D'un coup que c'est le bon, il va être capable de parler son langage.
C'est ça, il pourra pas me parler dans le dos.
Il pourra pas te parler dans le dos. Mais t'as appris ça par toi-même, t'as fait des cours.
Souvent, comme, si, je sais pas toi si c'est un service du CLSC, mais nous, quand on est à l'école, il y a beaucoup de préposés qui sont d'origine haïtienne, hein? Donc, j'ai appris le créole par de l'oreille, puis après ça, je me suis mis à pratiquer. Puis quand je me mets à parler créole, surtout que moi, j'ai travaillé pour des agences médicaux, il y a beaucoup d'Haïtiens et d'Haïtiennes. Puis surtout quand tu ne vois pas au téléphone, tu ne peux pas savoir que c'est une personne blanche comme neige qui est en train de te parler. Elle dit « Bonjour, sac à fête, où allez travailler pour moi aujourd'hui? Comment ça va? » Puis ça, elle dit « Mais non, mais vous êtes Haïtienne, madame? » Je dis « Mais non, mais... Arrête, je suis québécoise, puis ils sont comme... Arrête de niaiser, c'est sûr que t'as un chum haïtien, là. C'est sûr que t'as un chum haïtien, je suis comme...
Ta grande passion... Non, non. Ta grande passion à parler les langues et ton travail...
Les langues, puis j'aime les gens. J'aime les gens, j'aime leur culture. Je vais être honnête avec toi, j'ai l'impression qu'on cancelle tout en ce moment. Ils sont en train de canceller Speedy Gonzalez. Je veux dire, puis moi, j'ai des amis qui sont mexicains qui ne comprennent pas. J'ai l'impression que c'est juste nous, les caucasiens, qui est comme... comment je peux dire ça? Qui est, c'est pas correct, là. T'imites un noir ou t'imites un haïtien, t'imites un mexicain. On dirait que c'est nous, ça dérange. Finalement, ces gens-là, ça leur dérange pas tant que ça. Ils sont comme, pourquoi vous cancellez, genre, Speedy Gonzalez? Genre, ça vient de ma culture. Pour nous, c'est un héros, là. Mais c'est parce qu'il ne faut pas offusquer, mais on dirait que c'est juste nous, les caucasiens, que ça l'offense.
Oh, on exagère dans tout, nous autres. Hein? On est rendu pas mal
spécial. Surtout ces temps-ci, là. Oui, comment c'est à bout de ma génération.
Oh oui, on était prêts à vraiment virer sur le top. Mais écoute, est-ce que tu as des passions en art? Est-ce que tu as, mis à part les passions? Toi là, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Tu te vois où dans 10 ans?
Moi, dans 10 ans, je vais avoir écrit mon livre sur ma vie. Puis ça va être un roman. Puis j'aimerais ça pouvoir aider les organismes comme la police, la DPJ, les enfants, puis même les adultes qui ont fait subir ça à leurs enfants parce que c'est des adultes avec un cœur brisé d'enfants aussi.
Dans le fond, tu veux essayer de sauver des enfants. Comme toi, tu aurais voulu être sauvé?
Je pense que oui. Je pense que c'est pour ça, inconsciemment, je me suis toujours mis dans un métier où ce que j'avais nécessairement besoin d'aider les gens. Je pense que je me suis dit ça inconsciemment. Je me suis dit, pourquoi tu as tant besoin de faire ça? T'sais, si j'avais eu mes jambes, j'aurais voulu être garde côtière. T'sais, si j'aurais voulu être infirmière dans l'armée. Puis je me dis, est-ce que c'est parce que tu n'as pas pu être sauvée toi-même?
Oui.
C'est-tu parce que quelque part en toi ou c'est juste parce que t'es Mère Teresa? On avait marqué ça dans mon truc au secondaire, quand on faisait les métiers, cette fille-là, c'est Mère Teresa. Puis je me vois aussi normaliser la colère.
Nina, est-ce que te pardonner?
Oui et non. C'est là que je veux en venir. Quand je dis on va normaliser la colère, je vais te mettre en contexte. Là. OK. Tes parents t'ont battu toute ta vie. Puis tu dis, ah oui, je peux comprendre d'un autre côté parce qu'eux autres aussi, hein, ils ont eu leur lot. Ça m'a aidé à comprendre. Ils ont eu leur lot de vie. Ils n'ont pas eu les parents toujours exemplaires des deux côtés, mais vraiment pas. Mais en même temps, tu m'as quand même mis les mains sur la gorge. Tu m'as quand même frappé à coups de botte d'acier. Tu m'as quasiment presque tué à coups de balayeuse. Tu m'as enlevé mes médicaments quand je souffrais de mon rein. Tu m'as quasiment enlevé de l'hôpital quand je faisais une appendicite en disant que c'était pas vrai. Name it. Je pense que c'est correct d'être en colère sans avoir de la haine. OK? Mon but, c'est pas de dire aux gens, allez tuer telle personne parce qu'il vous a fait du mal. Mais en même temps, c'est correct aussi de pas tout pardonner. Surtout quand ces gens-là, ils t'ont jamais demandé pardon. Je veux dire, c'est le vrai mot de ces gens-là. Ça va être dur à entendre pour n'importe qui. On dirait que quand c'est des parents, il faudrait leur pardonner parce que c'est eux qui t'ont donné la vie. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi, c'est eux aussi qui nous ont agressés.
Là, aujourd'hui, tu as vraiment donné une leçon de vie à plein de gens parce que souvent, tu le dis, des personnes handicapées, tout le monde pense qu'ils sont chouchoutés, qu'ils sont mis... ceux qui n'ont pas une vie normale, dans le fond. Puis, ben on vit les mêmes obstacles que tout le monde, que ce soit extrême ou moyen ou léger. Mais tu t'en es sorti. Puis, si tu aurais un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent, ça serait quoi?
Des fois, là, quand c'est sombre, c'est là que la lumière brille le plus fort.
Ben, c'est clair. Nina, merci infiniment d'avoir participé au balado des 10% du Mouvement Citoyen Handicap Québec. Je te souhaite une belle soirée. Je sais que tu as un souper ce soir.
Oui.
Écoute.
Tu vas faire que ça a fait couler mon mascara, regarde.
Oui, t'es tout cute. Hey, merci. Merci. Bye bye.
Merci à toi, Richard. Bye bye.
Le Mouvement Citoyen Handicap Québec vous remercie. Et n'oubliez pas, ensemble, un jour, nous vaincrons.